Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 28 janvier. On commence tout de suite et sans introduction préalable par un rendez-vous qui a lieu demain devant l'usine Solvay à Salindres dans le Gard. Une mobilisation devant les portes, le portail de l'usine à 14h. C'est un rassemblement qui se fait à l'appel de la CGT, notamment la CGT Chimie, et de l'association Génération Future, car il y est question là d'industrie, mais aussi de santé. Vous le savez sûrement, Solvay, c'est le nom de cette usine, donc sur la commune de Salindres, qui rejette du TSA, un polluant éternel, et qui a annoncé l'année dernière, assez brutalement, arrêter son activité en licenciant ainsi 68 personnes sur les 96 que comptait le site. C'était à la fin de l'année dernière. Voici déjà donc ce que dit le tract d'appel à la mobilisation de demain. En soutien aux salariés licenciés de Solvay et aux victimes des PFAS, les PFAS, dans le cadre de la semaine européenne contre les PFAS, qui a lieu donc en ce moment du 27 janvier au 2 février 2025. C'est donc une mobilisation à laquelle tout le monde est convié à 14h. Il y a un an, le journal Le Monde et l'association Génération Future révélaient une pollution significative à ces polluants éternels, et notamment le fameux TFA, dans les eaux des rivières aux alentours de Salindres. Le TFA étant produit par l'usine de Solvay. Depuis, des experts scientifiques ont informé sur la possible toxicité de ce TFA pour la santé et pour l'environnement. Depuis également, le collectif Gare Eau PFAS s'est constitué. Il est d'ailleurs constitué de riverains, de l'association Génération Future, d'anciens salariés de l'usine de Solvay et d'une association qui s'appelle Des Étoiles dans la Mer, qui lutte contre la prolifération des glioblastomes. Ce collectif, donc Gare Eau PFAS, a mené des actions et des réunions d'information. Et on sait maintenant que l'usine de Solvay à Salindres va licencier 61 salariés et laisser un site pollué en l'état. L'objectif du rassemblement est donc de mettre toute la lumière sur les victimes de ces pollutions aux PFAS, à savoir en premier évidemment les salariés des usines, mais aussi les riverains et toutes les populations du coin. Et l'autre objectif, c'est d'organiser des actions partout dans l'Union européenne, des actions coordonnées par le Bureau européen de l'environnement et WeMove, une association, dont une ONG, dont Génération Future est partenaire. Tout cela pour appeler à se mobiliser contre les PFAS, donc au niveau européen, puisque la législation est pour le moment pour le moins lacunaire. Ça, c'est donc pour la mobilisation de demain, et c'est l'occasion de revenir un petit peu sur les justifications justement de Solvay, donc ce géant de la chimie, pour expliquer pour cette fermeture annoncée. Les justifications semblent assez légères, c'est ainsi en tout cas ce qu'on pouvait en déduire des comptes rendus qui ont été faits le mois dernier par notamment les porte-parole de la CGT qui s'exprimaient notamment dans les colonnes de France 3. Tout cela a suivi la présentation d'un nouveau rapport qui a été fait par l'entreprise d'expertise Sidecos. Au fur et à mesure de la lecture de ce rapport, la colère montait, explique Damien Aulry, le délégué syndical CGT de Solvay. Ce rapport a été demandé par des syndicats, effectué donc par une entreprise spécialisée dans les expertises économiques et notamment pour le secteur pétrochimique, s'appelle donc Sidecos. Ce rapport met en doute justement un certain nombre des arguments avancés par la direction pour justifier la suppression à l'époque des 68 emplois sur le site pétrochimique de Salindres donc. La direction expliquait notamment dans son communiqué en septembre dernier, celui au moment duquel elle avait annoncé la fermeture, que les efforts importants réalisés en termes de diversification et d'investissement pour tenter de maintenir la compétitivité du site n'ont pas produit les résultats attendus et n'ont donc pas suffi à compenser la baisse d'activité ni à maintenir une position concurrentielle. Petite info quand même, ils ont fait 588 millions d'euros de bénéfices en 2023, donc ça va, c'était quand même une affaire qui roulait. Alors, il y a des incompréhensions sur le fonctionnement économique du site, rapporte le délégué CGT. Déjà, le TFA, le composant donc chimique qui est fabriqué à Salindre, il est produit à partir d'une matière première que Solvay achète à l'un de ses autres sites qui est situé, lui, en Allemagne. Et le syndicaliste explique que donc, le site allemand vend cette matière première 30% plus cher que sur les prix du marché. Donc il y a déjà un bénéfice qui se crée en interne. Mais en contrepartie, le site allemand devait racheter le TFA derrière. Mais depuis ce mois de janvier, ils se fournissent donc en Chine. Les salariés, plus simplement, se demandent tout simplement si Solvay ne ferme pas son usine maintenant afin d'échapper à une bombe. Et cette bombe, c'est notamment tout ce qui sort en ce moment sur la toxicité de ces polluants éternels dont fait partie le TFA. Ça, c'était Cédric Cozo, un employé du site et syndicaliste CGT lui aussi, qui s'en inquiétait à la fin du mois d'octobre dernier. Ces composants chimiques, donc, comme le TFA, que le ministre démissionnaire de l'économie avait lui-même qualifié de produits dangereux à l'époque. C'est donc certainement la crainte de ce gros scandale sanitaire qui serait le principal motif plausible pour les employés expliquant ce soudain licenciement. Dans leurs revendications donc, pour demain, ils demandent notamment un suivi médical avec un check-up complet tous les ans ou encore la création d'un fonds d'indemnisation spécial pour les problématiques liées au PFAS. Puisqu'en effet, dans les cas de ces intoxications au long terme, des fois les maladies mettent du temps à se déclarer. Cet article donc là datant du 7 décembre, la suite des négociations avec la direction a eu lieu le 13 décembre dernier, donc il y a eu quelques petits remaniements des chiffres sur le nombre de personnes effectivement licenciées, et on pouvait lire sinon sur ce dossier dans la Marseillaise de la semaine dernière qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait donc été bien signé par les organisations syndicales suite à ces négociations de la fin de l'année 2024, un plan de sauvegarde qui doit être prochainement validé par la DREETS. Ce qui signifiera quand même, dans tous les cas, une perte d'emploi pour 57 salariés de l'usine au mois d'avril. Quant au volet santé médical, les salariés, pour l'instant, refusent toujours de nettoyer le site, puisqu'ils l'ont un petit peu décoré suite à leur mobilisation, tant qu'ils ne bénéficieront pas d'un suivi médical. Le relais Génération Future pour le département du Gard veut, lui, avec cette mobilisation, alerter sur les conséquences sanitaires, environnementales et sociales de la présence de ce TFA dans les eaux des rivières et dans les eaux potables autour et au sud de Salindre. Il interpelle les élus du territoire et les autorités administratives pour soutenir ses démarches, appuyer ses revendications et informer de manière transparente la population. Voilà, c'est pourquoi donc ce collectif appelle toutes celles et ceux qui se sentent concernés pour soutenir les salariés et aussi la question des pollutions dans toutes leurs revendications. C'est donc demain, 29 janvier, à 14h, devant l'entrée principale de Solvay sur la commune de Salindre. On va maintenant prendre un petit moment de recul et d'analyse sur cette fameuse petite polémique qui a eu lieu dans les médias notamment, par rapport au cessez-le-feu qu'a lieu en ce moment entre Israël et le Hamas, et la question des mots, notamment les otages palestiniens. C'est le bandeau qui a été utilisé courtement, enfin de manière courte, sur la chaîne d'info continue France Info. Et suite donc à cette erreur de leur part, c'est ainsi en tout cas qu'ils l'ont précisé, donc ils ont utilisé le mot « otage », eh bien le responsable de ce titre inadmissible sera suspendu. Tout commençait donc avec un bandeau diffusé à l'antenne et une capture d'écran qui a été faite de ce bandeau, puis utilisée sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont remarqué donc que la chaîne, vers 18h, a qualifié les 200 personnes libérées par Israël comme des otages palestiniens et non des prisonniers ou des détenus, ce qui est normalement le terme utilisé notamment par l'AFP. Ce choix a suscité de premières vives critiques et une heure plus tard, la chaîne présentait donc ses excuses aux téléspectateurs sur les réseaux sociaux en disant ceci sur X. À la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé dans un de nos journaux sur France Info, canal 27. Ça, c'était le compte X donc de France Info vers 19h et il précisait direct que le responsable a été suspendu. Les premiers éléments de celle-ci montrent une erreur humaine dans l'écriture du bandeau et en aucun cas un acte politique ou un acte bienveillant, s'ajoutait une porte-parole du groupe un peu plus tard, en soulignant qu'à l'antenne, le journaliste avait, quand il avait parlé, en tout cas bien parlé, de prisonniers palestiniens. Une des premières personnes qui a été outrée par ce bandeau, c'est Caroline Yadan, la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment Israël, qui dénonçait sur son compte X, elle aussi, un bandeau indécent, abject et inacceptable, et qui a été jusqu'à le qualifier d'injure à ce qui fait notre humanité. Voilà, pour avoir utilisé le mot otage au lieu de prisonnier. La réponse de France Télévisions, qui a été d'ailleurs relayée par cette même Caroline Yadan, qui réclamait, elle, le licenciement de la personne suspendue, eh bien la réponse de France Télé a suscité, dans un deuxième temps, la colère des défenseurs de la cause palestinienne, et notamment de plusieurs élus membres de la France Insoumise, par exemple l'eurodéputé Rima Hassan, qui, elle, dénonce la pression du lobby pro-israélien en France, ou quand sa collègue Ercilia Soudet, elle, accusait la chaîne d'empêcher ses journalistes de faire leur travail. France Info, faut savoir, c'est pas la seule à avoir été confrontée à cette situation, puisqu'une erreur du même genre avait été commise ce même samedi sur le site internet de BFM TV. Là aussi, il était écrit 200 otages palestiniens dans un article au lieu de 200 prisonniers, ce qu'il aurait fallu dire visiblement. Alors c'est quand même intéressant de connaître un petit peu justement qu'est-ce qui permet de définir quel mot utiliser dans quelles circonstances, notamment les textes qui régissent l'utilisation de ces mots « otages » ou « prisonniers ». Il faut rappeler quand même que les 4 otages israéliens qui ont été libérés, des jeunes femmes, 4 jeunes femmes, elles effectuaient leur service militaire et officiaient comme observatrices sur la base de Nahal Oz lorsqu'elles ont été capturées, c'était le 7 octobre dernier, au cours donc de l'attaque du Hamas. Donc des militaires. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, un prisonnier est une personne privée de sa liberté. Ça, c'est assez simple. Une privation de liberté qui peut être légale ou illégale est réalisée par un État ou une entité non étatique, comme par exemple un groupe armé. Prisonnier, ça regroupe donc différentes situations, des personnes détenues dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, les prisonniers de guerre, qui sont capturés lors d'un conflit armé, ou encore les prisonniers politiques, privés de liberté pour leurs opinions. Toutes les personnes qui tombent au pouvoir de l'ennemi au cours d'un conflit armé sont protégées en tout cas par le droit humanitaire. Il s'agit soit de combattants et ils deviennent donc prisonniers de guerre, ou bien il s'agit de civils et dans tous les cas, ils sont protégés en tant que tels. Toujours dans la définition du droit international humanitaire. A l'inverse, donc, un otage, c'est une personne capturée ou détenue dans le but de contraindre, d'obliger la partie adverse à accomplir quelque chose ou à s'abstenir de faire quelque chose, souvent accompagnée d'une menace de préjudice, voire même de mort sur l'otage. La prise d'otage peut d'ailleurs constituer un crime de guerre en elle-même. Toujours selon le droit international humanitaire, la distinction se fait donc au cas par cas, et tout est lié à la motivation qui est derrière la capture. Par exemple, si l'objectif c'est de priver quelqu'un de sa liberté dans le cadre d'une détention légale ou illégale, c'est un prisonnier. Si l'objectif c'est de capturer une personne combattante pour l'échanger contre d'autres combattants, c'est un prisonnier de guerre. Et si l'objectif c'est d'exercer une pression sur une autre partie pour obtenir un avantage, en menaçant par exemple la vie de la personne, là c'est un otage. Donc dans certaines conditions, certains prisonniers de guerre peuvent être des otages. Si on s'intéresse au cadre de l'accord entre Israël et le Hamas, qui prévoit donc la libération de personnes détenues de part et d'autre, on va pas trop se mouiller en utilisant ce mot-là, on peut considérer les notions de trêve et de cessez-le-feu obtenues en échange de ces libérations comme des avantages pour le Hamas, puisque, au moins momentanément, ce sont pour eux une gage de fin de la guerre et des bombardements. Donc, selon la définition appliquée par le droit international humanitaire, il semble donc être correct que les personnes détenues par le Hamas soient des otages, sauf pour certains soldats, qui peuvent être assimilés dans ce cas-là à des prisonniers de guerre. Et là, il faut rappeler que les 4 jeunes personnes étaient des militaires, même si évidemment en Israël c'est compliqué, puisque ce sont souvent des jeunes qui sont envoyés là aussi au service et qui se retrouvent donc sur les zones, sur une zone de guerre qui est un petit peu le territoire dans son entièreté. En revanche, si on s'intéresse donc aux Palestiniens, donc les personnes qui ont été capturées par Israël depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, selon le droit international humanitaire, tous ceux qui sont affiliés à des combattants sont des prisonniers de guerre, c'est selon Israël une large majorité, mais aussi les civils qui sont retenus sans condamnation selon des ONG sur place. Notamment d'après l'organisation israélienne de défense des droits humains Hamoked, entre le 1er octobre et le 1er novembre 2023, le nombre total de Palestiniens maintenus en détention administrative sans procès ni inculpation est passé de 1320 à 2070. Et là, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, donc cette espèce de petit point fact-checking, je l'ai pioché sur le site de CNews, voilà, qu'on n'accusera pas d'être un média islamo-gauchiste. En tout cas, c'est bien de remettre un petit peu les points sur les i, les mots sont importants, et surtout quand on voit la tempête que ça a pu provoquer, en tout cas dans notre petit milieu médiatique français. On continue juste sur les petites analyses, toujours avec un petit peu de recul sur le média RTS, un média suisse, qui a interviewé Marc Anselin, un avocat spécialisé justement en droit pénal et international. On lui a demandé s'il était arrivé dans l'histoire contemporaine que des prisonniers soient requalifiés en otages. Il a cité par exemple l'exemple de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mandela a été condamné pénalement, donc c'est un prisonnier au sens technique du point de vue de l'Afrique du Sud. Mais vous pouvez très bien dire qu'il est un détenu politique ou un otage du système. Tout dépend, rappelle-t-il, du prisme de votre qualification et de l'orientation politique de vos déclarations. En tout cas pour lui, dans la réalité, l'utilisation des termes otage et prisonnier peut revenir relativement au même. Et puis puisqu'on en est là, on va revenir aussi sur l'utilisation du terme génocide. Il rappelle que la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ne se sont plus prononcées sur la question concernant justement les exactions d'Israël dans la bande de Gaza depuis plusieurs mois. Et bizarrement, assez ironiquement, c'est l'Afrique du Sud, encore elle, qui a déposé elle une plainte devant la Cour internationale de justice au mois de décembre 2023 en accusant Israël justement de pratiquer un génocide dans la bande de Gaza. Voilà, si on revient sur la trêve, le cessez-le-feu, la libération de ces quatre prisonnières, suite à cette. En échange de la libération de ces quatre prisonnières, Israël relâchait dans la journée 200 Palestiniens, dont 121 condamnés à perpétuité et 79 détenus de longue durée. Reste à savoir où s'installeront précisément les 120 condamnés à la perpétuité qui ont été relâchés. L'accord de trêve qui est entré en vigueur ce 19 janvier prévoit donc la libération durant ces 6 premières semaines de 33 otages, donc ça c'est pour les Israéliens retenus par le Hamas, notamment les femmes et les hommes âgés de plus de 50 ans ou en mauvaise condition physique, en échange de la sortie de 1900 détenus palestiniens. Selon le Hamas, cette fois-ci, 8 des 33 otages qu'ils ont en leur possession sont morts, et donc 7 femmes ont déjà été libérées, mais il reste encore 87 personnes retenues captives à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne. Et on termine avec le point de vue des journalistes. Tiens, sur Libération, voici ce qu'on pouvait lire par rapport à ce malaise donc engendré par toute cette affaire. S'inscrivant dans les pas de la direction donc de France Télé, la Société des journalistes, SDJ, de France Info TV, qui représente la rédaction, avait reconnu elle aussi rapidement dans un communiqué une erreur, donc toujours ce bandeau qui disait « otage au lieu de prisonnier », conséquence, disent-ils, d'une confusion humaine dans la rédaction du texte, et le SDJ donc disait regretter profondément cet incident. Sous couvert d'anonymat, des journalistes de la chaîne qui ont été interrogés par Mediapart, se sont bien accordés à parler d'une erreur dans ce cas-là, mais ont quand même laissé éclater leur inconfort face à une réaction beaucoup trop rapide, selon eux, de la part de la direction et du syndicat des journalistes. Un journaliste expliquait notamment que, pour France Info, « on est nombreux à être scandalisés par le communiqué de la SDJ qui n'a pas un mot pour notre confrère, sur lequel la direction se défausse un peu facilement. » C'est extrêmement dur pour lui, enrage une rédactrice. L'entreprise doit chercher à comprendre comment l'erreur a été commise et questionner la chaîne de production de l'info sans donner l'impression qu'elle répond aux pressions politiques sur le traitement du salarié fautif. Ce n'est pas une députée d'exiger sur X la sanction que doit selon elle recevoir ce salarié. Selon certains journalistes, rappellent que cette erreur est loin d'être la première. Je vous rappelle que sur BFM TV, il y a eu le même chose ce samedi. Et ces journalistes mettent en cause les conditions de travail des salariés de la chaîne en sous-effectif chronique et essorés par des horaires de travail intenables. Quant au journaliste, l'auteur de ce bandeau fautif, un rédacteur en chef d'une cinquantaine d'années, il enchaîne depuis plusieurs mois les contrats précaires entre des piges et des CDD, souvent sur des plages horaires difficilement compatibles entre elles. Toute cette affaire montre l'épuisement des équipes. On demande aux pigistes et aux petits contrats d'enchaîner les heures, notamment la nuit et les week-ends. France Info, c'est le parent pauvre du groupe. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'utilisation du terme terroriste, on se fera ça une autre fois parce que on n'en a pas pour 5 minutes. On va partir à Nîmes où des féministes sont mobilisées ce week-end contre les universités de la vie. C'est le nom d'événement organisé par Alliance Vita. Entre le 20 janvier et le 3 février, donc Alliance Vita, c'est une structure fondée par Christine Boutin, étroitement liée donc à la Manif pour tous, organise une série de conférences sur la bioéthique dans plusieurs villes de France et notamment à Nîmes. Ce samedi 25 janvier, donc, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans les rues de la préfecture du Gard pour s'opposer à ces universités de la vie qui répandent des idées anti-avortement, anti-IVG. Être humain et le rester demain, c'est le nom notamment de la thématique 2025 de cette université de la vie. Donc une organisation qui propose une série de conférences autour de la bioéthique, selon leurs mots. Donc c'est 20 et 27 janvier, ainsi que le 3 février, des cycles de formation bioéthique ont lieu à Nîmes et à Vergèze. Et le milieu associatif se mobilise en réponse à ce qu'il considère comme de la propagande pro-vie. La coordination féministe nîmoise notamment, CNT du Gard, le planning familial du Gard, la chorale féministe Les Simones, Nous Toutes Nîmes, Solidaires étudiantes Nîmes, OST Nîmes. Donc toutes ces organisations ont mis en place plusieurs rassemblements pour alerter notamment et informer sur ces fameuses universités de la vie. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais figurez-vous que ça existe depuis 2006 et ces universités de la vie donc reviennent chaque année avec une thématique différente. Un événement donc organisé par l'association Alliance Vita qui a été fondée par Christine Boutin en 1993. On comprend bien le caractère partisan de ces conférences, étant donné les positions de Madame Boutin sur l'avortement, mais aussi l'euthanasie, ou encore les droits des personnes LGBTQIA+. Un certain nombre de membres de cette association Alliance Vita, d'ailleurs, sont d'anciens acteurs de la Manif pour tous, par exemple Caroline Roux, la directrice générale adjointe d'Alliance Vita, qui coordonne également les services d'aide et d'écoute, notamment SOS Bébé. Une ligne donc d'urgence théoriquement destinée à soutenir les personnes confrontées à des situations difficiles par rapport à la grossesse, mais dans la réalité qui fait fortement du lobbying contre l'IVG. Donc ils ont d'ailleurs été épinglés là-dessus pour entrave à l'IVG. Alors tout ça est présenté sous le coup d'un vernis scientifique, des conférences avec des experts en tous bords. Il y aurait de quoi en douter, en tout cas si on suit toujours cet article que j'ai trouvé dans les colonnes du journal Le Point avec un G à la fin. Le fait que ces universités de la vie soient organisées quasi exclusivement dans des églises déjà, ou des lieux de culte, pose question. Donc par exemple à la maison diocésaine de Nîmes ou Notre-Dame d'accueil pour ce qui est de Vergèze. De même, si on regarde le programme des conférences pour cette année, on s'aperçoit qu'une majorité des intervenants sont directement issus des rangs de l'association Alliance Vita. Donc c'est vraiment des experts qui arrivent de domaines extérieur. Ils n'ont a priori pas de qualification particulière sur les sujets en question, assez technique quand même. Et au-delà de ces conférences, d'ailleurs, Alliance Vita communique autour d'un certain nombre de sujets sur son site internet. Les thématiques, toujours la fin de vie et la dépendance, la procréation, la famille et la société, ainsi que les sciences et le transhumanisme. Sur chacun de ces sujets, la communication mélange des éléments d'information d'apparente neutralité à des prises de position partisanes. Cette technique permet ainsi à Alliance Vita de faire passer ses messages tout en bénéficiant d'un assez bon référencement sur des termes clés, ce qui lui permet, si par exemple on est un peu en détresse et qu'on fait des recherches sur Google, on peut tomber assez facilement sur ce type de contenu. Sur la notion de l'IVG et de la maternité, si on revient là-dessus, il y a par exemple sur leur site une catégorie web appelée « Bioéthique et procréation ». On peut lire au bout de quelques lignes l'idée que l'on peut dissocier à 100% sexualité et procréation n'est plus si évidente pour eux. Donc pour eux, le sexe c'est fait pour faire des bébés. L'association va plus loin. Cet embryon dont il parle, le petit embryon qui va peut-être être l'objet justement des débats d'avortement ou pas, cet embryon est l'un des nôtres. Un être humain vivant, unique et irremplaçable. La science ne cesse de le confirmer. Les recherches médicales à encourager et à financer sont celles qui ne portent pas atteinte à l'embryon. Donc des propos ouvertement pro-vie, scientifiquement non démontrés, car sous couvert d'humaniser la bioéthique, quelles études le prouvent? Ça on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de lien en tout cas vers des études scientifiques telles qu'ils le prétendent. Sur l'IVG, on peut lire aussi « Ce qui est présenté comme un instrument de libération des femmes et de la sexualité peut se retourner contre elles et également piéger les hommes. » Ou ailleurs, « Cette notion du choix des femmes n'est évoquée nulle part. » Qu'il s'agisse du site d'Alliance Vita ou de son site dédié aux femmes qui se posent des questions sur leur grossesse SOS bébé. En effet, dans les articles qu'on peut lire sur le site SOS Vita, qui présentent les difficultés si on veut garder ou pas un enfant, et notamment le problème lié à la grossesse. Il va être question de la pression du compagnon, des pressions économiques ou de l'entourage au regard de sa situation, mais nulle part on ne questionne le désir de la femme d'être mère, comme si en fait elle était de manière inhérente, elle voulait être mère, mais que c'était l'entourage qui faisait pression pour qu'elle avorte. Ce prosélytisme donc d'Alliance Vita sur la grossesse à tout prix touche également les mineurs, puisqu'il n'est nulle part question d'une interrogation sur les conditions d'une poursuite de grossesse selon leur situation. Et toujours, le site SOS Bébé se contente de donner une liste des aides disponibles si on veut avoir un enfant. Et sur les femmes potentiellement enceintes d'un fœtus qui porterait un handicap, pour eux, ne pas le garder, c'est tout simplement faire preuve d'eugénisme. Il ne s'agit là que l'une des formes de propagande de cette association Alliance Vita, puisque là, c'était ciblé sur les questions de la maternité et de l'IVG, mais on retrouve ce genre de discours également pour l'opposition à l'euthanasie ou la PMA et la gestation pour autrui. Donc des positions assez classiques, droite dure, catholique, pro-vie. Ce qui est curieux, eh bien, c'est que malgré tous ces éléments qui montrent donc un positionnement idéologique clair depuis de nombreuses années, l'association a malgré tout su inspirer confiance à des organismes reconnus comme l'ONU. Par exemple, le rassemblement qui a eu lieu sur la place de la Maison Carrée samedi a donné lieu à la signature d'un communiqué contre l'organisation des universités de la vie par la plupart des membres de la coordination féministe nimoise. Également étaient présentes la gauche éco-socialiste et la France insoumise du Gard, et ils ont tenté d'interroger les choix de l'ONU là-dessus. Par ailleurs, une conférence de presse a été donnée ce lundi, c'était au bar du Midi à Nîmes, afin d'informer un maximum de personnes sur l'existence d'Alliance Vita. La mairie de Nîmes a été contactée, elle affirme n'avoir connaissance ni des universités de la vie, ni de l'association Alliance Vita, tout simplement. Et elle a indiqué que le diocèse gérait de manière indépendante les associations qui l'accueillaient. Et d'ailleurs, le diocèse, qui a été aussi contacté par ce journaliste, et par la voix de sa chargée de communication, reste lui un petit peu plus ambivalent par rapport à son positionnement. Il se veut indépendant, en tout cas vis-à-vis d'Alliance Vita. Ils ont répondu ceci. Ils louent l'endroit et il faut savoir qu'on les accueille comme tout type de formation, BAFA, infirmiers, architectes, etc. Ils ajoutent qu'il n'y a pas de lien avec l'association et pour eux, pas de volonté d'être affichés ou de partager les points de vue d'Alliance Vita. Et pendant ce temps, du côté de Toulouse, d'ailleurs sur la même thématique, c'est le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui, côté pile, prenait un arrêté pour interdire une conférence d'un groupuscule d'extrême droite, Némésis, le fameux groupe féministe que Bruno Retailleau adore. Côté face, son directeur de cabinet aurait dégoté une solution de repli aux militantes fémo-nationalistes. Par exemple, c'est ce qu'on a pu lire sur le réseau X du collectif identitaire Némésis ce jeudi dernier. On l'a fait. Une fanfaronnade donc pour dire que notre conférence a bien pu se tenir à Toulouse malgré les protestations des forces politiques de gauche. Et surtout donc malgré un arrêté d'interdiction de réunion qui avait été pris plus tôt dans la journée par le maire de la ville, Jean-Luc Moudinque. Si ce groupuscule fémo-nationaliste a pu très rapidement trouver une solution de repli, eh bien c'est visiblement aussi grâce à l'intervention discrète mais efficace du cabinet du même maire de droite. Et ça, ce sont des informations qui ont été révélées par Mediacité et Street Press aussi. Selon donc ces deux médias, des proches du maire Jean-Luc Moudinque, dont son directeur de cabinet Paul Bouscatel, se sont mis en quatre pour dénicher une solution de dernière minute de repli. Et ils ont finalement justement obtenu les clés du club privé L'Étoile dans le quartier Bordeaux-Rouge, qui est d'habitude fermé au public le jeudi soir. Et ils ont donc pu rapidement ouvrir les portes aux militantes d'extrême droite qui ont fait leur soirée donc comme prévu. Alice Cordier et ses sympathisants et sympathisantes ont donc pu s'y réunir en toute tranquillité jusqu'en fin de soirée. C'est d'ailleurs de cette même salle privée qu'elle a pu intervenir en direct sur CNews pour expliquer toute la polémique et son indignation face aux pressions de la gauche. Contactées d'ailleurs, les organisatrices de Némésis ont refusé de réagir sur le sujet, en tout cas pas aux journalistes de Street Press, à qui elles ont répondu « Vous êtes un média islamo-gauchiste, je refuse de vous répondre ». Et quant à la mairie de Toulouse, elle n'a pas non plus commenté cette rumeur grotesque, c'est ce qu'elle a fait savoir à Mediacité par l'intermédiaire de son service de presse. Une dernière brève avant de nous quitter, un petit rapport que j'ai trouvé dans les pages de Reporters. On y apprend que la moitié des forêts de montagne de l'Hexagone, donc de la France métropolitaine et de la Corse, sont menacées par le changement climatique. Cette étude a été rendue publique le 23 janvier. Elle a été fondée sur les données d'écologues forestiers et coordonnée par l'UICN, le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ainsi que l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui ne vit pas des heures très tranquilles en ce moment, et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc une grande étude publique sur les forêts du territoire national. C'est la première fois que l'UICN, qui tous les ans publie une liste rouge des écosystèmes menacés, c'est la première fois donc qu'ils évaluent les forêts de montagne de la France, notamment les massifs des Alpes, du Jura, du Massif central, des Pyrénées et des Vosges, ainsi que la Corse. Cette analyse porte sur 19 écosystèmes. Les forêts mixtes, ce sont celles où on a des mélanges de hêtres et de sapins blancs qui ont pu être évalués, mais également les forêts de sapins blancs ou d'épicéas communs et les forêts de pins. 10 écosystèmes sont menacés et 6 apparaissent comme quasi menacés, principalement donc par le changement climatique. Résume en gros cette étude. Les coordinateurs de cette étude citent plusieurs bouleversements qui sont liés aux pressions d'origine humaine, notamment l'exposition des forêts de montagne à des conditions climatiques différentes de celles qui ont permis leur développement, celui où elles ont été plantées. Cela affecte particulièrement les hêtraies, les forêts de hêtres, et les sambrais mélésins. Ce sont les forêts de pins sambros et de mélèzes qui sont situées sur ce qu'on appelle l'étage subalpin. C'est l'étage le plus élevé avec des forêts, avant qu'ensuite on passe en mode prairie et neige, etc. Eh bien, ces deux écosystèmes ont été classés en danger. 8 autres écosystèmes de l'étage montagnard, la zone des forêts mixtes, sont également classés vulnérables. Et 6, eux, sont quasi menacés. Pardon. C'est là-dessus qu'on se quitte pour les nouvelles du monde. Rendez-vous jeudi pour d'autres informations palpitantes et toujours aussi réjouissantes. D'ici là, portez-vous bien et puis on va s'écouter un peu de musique cet après-midi, ça va nous faire du bien. Allez, à bientôt, ciao.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.